et c'est le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Donald Trump aura sans doute son mur anti-migrants à la frontière mexicaine. La Cour suprême des États-Unis lui donne son feu vert. Rouge sur les routes de France ce samedi dans le sens des départs. Rouge dans les gares avec pas moins de 1500 gilets rouges prévus pour aider les voyageurs. Plus de jaune pour Julien Alaphilippe, battu hier par le Colombien Egan Bernal dans la 19e étape du Tour de France cycliste. Plus d'espoir, plus de course et donc journée noire pour Thibaut Pinot qui a dû abandonner en raison d'une déchirure musculaire. À 8h10, le journal des sports et à 8h20, il sera question de la bétonisation des sols en compagnie de votre invité, Laetitia Gaillet.
Oui, Gilles de Margerie, commissaire général à France Stratégie, ce sera le grand entretien. Plus de béton, moins de nature, on appelle ça l'artificialisation des sols. La nature perd du terrain chaque année en France. Constat effrayant, comment lutter contre, comment renaturalise-t-on les sols souillés? On verra ça avec Gilles de Margerie à 8h20.
France Inter. Nouvel épisode dans la politique migratoire menée par Donald Trump. Le président américain va enfin pouvoir faire construire le mur dont il rêvait à la frontière mexicaine. Renversant l'injonction d'une cour inférieure, la Cour suprême des États-Unis a de fait autorisé hier soir l'utilisation par l'administration Trump de 2,5 milliards de dollars venant du Pentagone pour la construction de ce fameux mur. Los Angeles, Loïc Piala.
La décision de la Cour suprême annule celle d'un juge fédéral d'Oakland près de San Francisco, ainsi que l'appel d'une cour californienne. Elle ne dit pas pour autant que Donald Trump a le droit de réaffecter les fonds du Pentagone à la construction du mur. Les 5 juges républicains de la cour considèrent simplement que les associations qui ont attaqué l'administration Trump en justice sur ce sujet n'ont pas l'autorité pour le faire. Leurs 4 confrères démocrates en minorité ne partagent pas cet avis. Voilà désormais le président américain avec 2,5 milliards de dollars à sa disposition, une somme qui devrait permettre la construction d'environ 130 kilomètres de murs en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique. C'est une grande victoire pour la sécurité à la frontière et l'état de droit, s'est félicité Donald Trump sur Twitter. En février, il a déclaré l'urgence nationale à la frontière pour contourner le refus du Congrès de financer son mur. 6 mois plus tard, sa principale promesse de campagne enregistre l'un de ses rares succès. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Donald Trump qui menace par ailleurs le vin français. Le président américain est en effet monté au créneau après l'adoption par la France d'une taxe sur les GAFA, ces géants du numérique. Pour Donald Trump, si quelqu'un doit les taxer, eh bien, c'est leur pays d'origine, à savoir les États-Unis et personne d'autre, dénonçant au passage la stupidité d'Emmanuel Macron. La France a pourtant bien l'intention d'aller jusqu'au bout et de mettre en œuvre ses décisions nationales, a pour sa part indiqué hier soir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
On en parlait tout à l'heure avec Alice Cachaner, journée rouge sur les routes de France ce samedi dans le sens des départs en vacances, rouge aussi dans les gares ce week-end, Serge.
Oui, ce rouge sera surtout celui des gilets portés par quelques 1500 salariés de la SNCF. Déployé pour venir en aide et vous aiguiller. La SNCF, consciente du fait que le moindre incident, le moindre faux pas, lui sera reproché après ce qui s'est déjà passé cette semaine dans les gares de l'Est et du Nord. Maxime Deps.
Avec 2600 TGV en circulation sur 2 jours, 1 400 000 passagers à conduire à destination, soit 4% de plus que l'an dernier à la même date. Ce week-end est l'un des plus redoutés de cet été, même si le vrai chassé-croisé est prévu la semaine prochaine. La SNCF se veut vigilante, elle qui a déjà connu quelques alertes cette semaine. Encore hier, Gare du Nord, le trafic a été perturbé en raison d'une panne électrique. Et cette semaine, canicule oblige, par équipe de 2, les agents SNCF se sont attelés à des tournées forte chaleur. 2000 en tout, objectif, inspecter le maximum de tronçons, le rail pouvant se dilater à forte température. La SNCF qui inspecte également depuis plusieurs jours, dit-elle, les systèmes de climatisation de tous ses trains pour éviter les incidents comme à bord de ce TGV Paris-Nantes mardi dernier où 320 passagers se sont retrouvés sans air pendant une bonne heure. Comme le résume un porte-parole de la compagnie, les galères, ça arrive, l'important c'est de tout faire pour essayer de les éviter.
Et la fin d'une autre galère imputable, celle-ci, à l'épisode caniculaire que nous venons de connaître et de subir. Non seulement les températures ont commencé à baisser pour retrouver des valeurs plus normales, mais qui plus est, la pluie tellement attendue est arrivée sur de nombreuses régions, des pluies bien souvent sous forme d'orages accompagnées d'averses de grêle qui ont à leur tour causé des ravages et largement perturbé l'étape d'hier du Tour de France cycliste. Nous y reviendrons dans le journal des sports. Quoi qu'il en soit, l'alerte canicule lancée par Météo France devrait être complètement levée à 16h cet après-midi.
Et justement, après ces événements pour le moins violents, l'urgence à réduire le réchauffement du climat semble devenir une priorité pour les politiques français, mais de tous bords.
S'il y a en effet une prise de conscience, il est un petit peu hâtif de crier victoire et la conversion écologique de nos élus reste malgré tout une bataille à mener pour les défenseurs de la planète. Retour sur cette évolution lente mais historique, composée de succès mais aussi de bémols, avec vous, Laurence Perron.
On est en 1974. La France découvre un ingénieur agronome à cheveux blancs qui lance sa campagne présidentielle d'un bateau-mouche sous le pont de l'Alma.
Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là.
René Dumont, premier candidat écologiste, fera 1,32%. Trois ans plus tard, sur le plateau d'Apostrophe, le commandant Cousteau s'agace.
On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2.
Il faut attendre 2002 pour qu'un président de la République prononce ces mots.
Notre maison brûle.
Jacques Chirac, à Johannesburg.
Et nous regardons ailleurs.
En 2007, Nicolas Sarkozy impulse un Grenelle de l'environnement. Mais au Salon de l'agriculture en 2010, il fait volte-face.
Toutes ces questions d'environnement, ça commence à bien faire.
Emmanuel Macron, c'est un slogan. Make our planet great again. Il est sacré champion de la Terre et se veut très volontariste.
On est en train de perdre la bataille.
Mais la lune de miel écolo sera brève. Nicolas Hulot, son ex-ministre de l'écologie, a repris son porte-voix.
On ne voit pas les flammes comme à Notre-Dame. Mais la planète, elle est en train de cramer.
Une tribune très verte aussi contre la ratification du CETA qui a fait tousser le président.
Si avec le Canada de Justin Trudeau, nous ne savons pas trouver des accords, avec qui signera-t-on des accords commerciaux? Avec qui?
Avec personne quand il s'agit de ce type d'accord. Répondent en chœur les écologistes, même ceux qui ne sont ni de droite ni de gauche, comme Yannick Jadot. Le problème, ce n'est pas l'accord, c'est le modèle économique.
Et à noter que les actions des agriculteurs se multiplient contre les permanences des députés de la majorité qui se sont prononcés mardi en faveur du CETA. Autrement dit, de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Vous en parliez avec votre invité juste avant ce journal, Laetitia.
Et puis, conséquence de la chaleur et de la pollution qui l'a accompagnée, les camping-cars de l'association Mobile Douche n'ont pas pu circuler cette semaine en Île-de-France.
Oui, un comble lorsque l'on sait que ces véhicules ont pour but justement de permettre à tous les sans-abri de pouvoir prendre une douche. Pas vraiment un luxe d'ailleurs par les températures que l'on a pu connaître. Mais voilà, les véhicules de l'association, pas tout jeunes et ne respectant donc pas les obligations de la vignette critère, ont dû attendre hier, vendredi, pour pouvoir de nouveau apporter du réconfort à tous ces sans-abri, notre reporter Rémi Brancato a pu monter hier à bord de l'un de ces camping-cars.
C'est un camping-car pas de première jeunesse.
Bienvenue à la Mobile Douche.
Au volant, Jean-Pierre Aubiang, un des deux salariés de l'association Mobile Douche en Île-de-France.
On va redescendre vers le boulevard Saint-Germain parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de nos services. C'est monsieur Jérôme qui est là.
Jérôme, c'est un habitué. Jean-Pierre lui fournit un petit kit d'hygiène et des vêtements et sous-vêtements propres.
Le shampoing, gel douche, tout est là.
Direction le fond du camping-car, le coin intimité, une cabine de douche. Depuis 10 ans, du mardi au vendredi, les mobiles douches sillonnent Paris, la banlieue sud et bientôt la banlieue nord. 600 douches par an pour Jérôme et Hugo à la rue. C'est un soulagement, surtout après cette semaine caniculaire.
J'ai souffert, hein.
La chaleur, quoi.
Bah, je me suis mis à l'ombre et j'ai attendu qu'il fasse plus frais, quoi.
On sent propre. On peut rester propre un minimum, quoi.
Et une fois propre, Jean-Pierre offre un café, une collation.
Ça fait partie du bien-être lorsqu'on va dans sa salle de bain. Un jour, quelqu'un a dit la mobile douche, c'est plus qu'une douche, c'est un bain d'humanité.
Mais jusqu'à jeudi soir cette semaine, pas de maraude, les vieux camping-cars sont trop polluants. En cas d'alerte atmosphérique, Ranzaki Faïd, la cofondatrice de Mobile Douche, a rongé son frein.
On n'a pas pu proposer nos services, donc cette semaine, oui, bien sûr, j'étais en colère, mais contre moi-même.
Alors c'est décidé, dans les prochains jours, elle dépose une demande de dérogation pour pouvoir circuler, même si la canicule est de retour.
Allez, nous allons refermer ce journal par un hommage à un comédien dont le nom ne vous dira sans doute pas grand-chose, si ce n'est que vous l'avez forcément entendu, au moins une fois, puisqu'il a été la voix de Bobby Ewing dans Dallas ou bien la voix du dessin animé Capitaine Flamme.
Bobby, je te remercie vraiment, tu m'as laissé tout seul là-dedans, j'aurais pu être tué.
Eh ben, je trouve que t'étais plutôt à l'abri sous ta table, non?
Ici Capitaine Flamme. Ici Capitaine Flamme, je voudrais entrer en rapport avec Markal. Nous arrivons dans le 6e système solaire.
Philippe Auguste, car c'est de lui dont il s'agit, a aussi été la voix française de Martin Sheen, de John Travolta, de Dustin Hoffman ou bien encore de Bruce Lee. Philippe Auguste qui vient de s'éteindre à l'âge de 79 ans et que vous avez donc pu entendre ou réentendre à l'instant dans ce montage réalisé par Anna Péan. C'est la fin de ce journal, Laetitia Gaillet.